Sud. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, deux fois bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous prendre deux, trois minutes de votre temps pour vous reparler encore de cette fameuse controverse autour du Bonjour High. Après cette vaste étude quand même de l'OQLF qui montre qu'on est passé de 84% des commerces qui accueillaient uniquement en français. Ce pourcentage-là est descendu à 71%. C'est assez intéressant de voir la façon dont les médias anglais traitent ça. Alors, la Gazette a fait son titre en disant « Félicitations, il y a 71% des commerces où vous êtes accueillis en français. » C'était ça le sous-titre de leur texte. Mais dans le texte, ils en parlaient, mais dans le titre du texte, ça disait pas que c'était une diminution épouvantable, qu'on était passé de 84% à 71%. Ils voulaient nous noyer tout ça en disant, ben voyons, de quoi vous plaignez, les petits amis, dans 71% des cas, les gens nous accueillent en français. C'est absolument hilarant. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait imprimer ce texte-là de la Gazette parce que ça parlait du fait que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, trouvait que c'était tout à fait normal d'accueillir les gens uniquement en français, que le mot bonjour était quasi universellement reconnu et que ça contribuait au maintien du visage français de Montréal, ville dont l'élément numéro un de la charte de la ville est, en effet, Montréal est une ville de langue française. Alors, j'ai fait imprimer le texte de la Gazette. Savez-vous pourquoi? Je l'ai fait imprimer, je l'ai plié en quatre et je vais l'avoir tout le temps avec moi dans ma petite poche. La prochaine fois que je vais aller dans un commerce et que je vais être accueilli par un bonjour high, par exemple au centre Auckland, je suis déjà allé au centre Auckland, là, quasiment tous les commerces, c'est toujours du bonjour high. Puis je me chicane, moi, à chaque fois avec ces gens-là, puis je leur dis, vous n'avez pas d'affaire à me dire ça. Puis là, ils me disent, ah, gna gna gna, une emmerdeuse, gna gna gna. Bien, je vais leur sortir mon petit texte de la Gazette, puis en plus, c'est écrit en anglais, fait qu'ils devraient comprendre. Je vais leur sortir mon petit texte de la Gazette. Et la mairesse de Montréal, elle vous dit de nous accueillir en français. C'est-tu pas beau, ça? Alors, voilà pourquoi je vais avoir mon petit texte avec moi. Et l'autre chose que je voulais dire à propos du Bonjour High, c'est qu'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, Elias Makos, qui est animateur à CJD. Puis on s'amuse beaucoup, Elias et moi, on se taquine souvent. Mais là, il a écrit sur Twitter que lui, il trouvait que c'était juste une forme de courtoisie de dire Bonjour High et qu'il trouvait qu'il y avait pas du tout d'aspect politique à ce mot High. Alors, si c'est un si beau symbole de courtoisie, Elias, de nous dire bonjour, hi, ben j'aimerais ça savoir pourquoi, moi, quand je vais à Toronto, puis je vais à Toronto souvent parce que c'est une ville que j'adore. Moi, ça fait que quand j'arrive à Toronto, il n'y a personne qui me dit hi, bonjour, Madame Durocher. Si je vais à l'hôtel, je vais dans les restaurants, je vais dans des musées. Jamais, jamais je me fais accueillir par un hi, bonjour. Ça veut dire qu'ils ne sont pas courtois à Toronto? Je vais à Ottawa, c'est la capitale de mon pays. Parce que moi, sur mon passeport, c'est marqué Canada. Ben, je me dis, je vais aller à Ottawa, c'est la capitale du pays. Je rentre dans un restaurant, je rentre dans un musée, je rentre à l'hôtel. Il n'y a jamais personne qui me dit « hi, bonjour ». Ils ne sont pas courtois à Ottawa. Puis à Vancouver, je suis déjà allé à Vancouver. J'ai traversé le pays au complet. Je suis allé à Halifax. Pensez-vous qu'à Halifax, les gens disent « hi, bonjour » parce que c'est de la courtoisie? C'est une farce, les amis. Le seul endroit où on est courtois, c'est au Québec. En fait, on n'est pas courtois, on est niaiseux.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Bon, on va continuer par du français et de l'anglais avec Nick Payne, qui est analyste politique. Tu as remarqué, toi aussi, un certain phénomène d'anglicisation, non pas de la langue de tous les jours, mais des titres de noms de festivals.
Ben oui, la saison des fêtes s'en vient.
Hein, Sophie, c'est le fest des fêtes. Le fest des fêtes.
Oui, mais d'ailleurs, j'ai envie qu'on fasse un festifest ou un fest-fest parce qu'on est vraiment le pôle, le centre international du fest. D'ailleurs, ces gens-là, on décidément pense pas à la sonorité en français. Ça a l'air ridicule.
Mais ça a l'air fest. Ça sonne fest.
Ben là, parce qu'en plus, qui prononce, en plus, prononcé en québécois, là, le poutine fest, bon. Bref, tu sais que, par ailleurs, fest est déconseillé par l'OQLF.
Hein? Ah, explique-moi ça, j'adore ça. Alors, je prends des notes.
Explicitement, quand tu vas sur le site là, de l'OQLF, là, dans la section, je pense, vitrine linguistique, où je me souviens pas des mots exacts.
Oui, c'est la vitrine linguistique.
On dit que fest est un emprunt à l'anglais qui est déconseillé. Oui. On suggère à la place, tiens-toi bien, festi, tiret, ou encore festival, ou festif, enfin les adjectifs là, festif ou en fête, hein, Montréal en fête ou je sais pas quoi, c'est fou quand même comme il fallait y penser. Bref, l'OQLF déconseille, mais tu vas voir que l'OQLF là, pas mal de monde s'en fout, j'ai fait une petite recension des fêtes.
Ça t'adore ça.
Mais écoute, j'ai arrêté à un moment donné parce que c'est infini, il y en a du
fest. Est-ce que ça fesse? Ça fesse?
Oh, ça fesse fort, oui. C'est le festifort.
C'est le festifort et ça fesse fort dans les fesses des fêtes.
Ah là là, écoute, curieusement, dans le milieu de l'humour, hein, on est fort sur le fest.
Vas-y, mais oui.
T'as le Comédia Fest, évidemment. T'as le Zoo Fest, bon là, qui est un peu pris le bord avec les difficultés de Juste pour rire. Zoo Fest qui s'accompagnait du Off JFL, hein, Off Just for Laughs.
Just for Laughs.
Il y avait des artistes en français aussi dans ça, apparemment. T'as maintenant le Trip Festival à Trois-Rivières, hein. Trip, je comprends là que c'est un jeu de mots avec TR pour Trois-Rivières, mais enfin ça tombe bien, ça donne un autre nom anglais.
Donc ça s'appelle vraiment le Trip Fest, ça s'appelle comme ça?
C'est le Trip Festival, mais tu vois, on place Festival après, bon, c'est un peu...
c'est ça, donc voilà. C'est ça, rappelons à tout le monde, en français, on va dire un arbre bleu. En anglais, on va dire a blue tree. La même façon, en français, on va dire le festival de la langoustine. Puis en anglais, on va dire lobster fest ou lobster festival. Donc, le substantif est placé après pour qualifier ce dont le festival est de célébrer. T'es comme la fille que je sors avec, là, c'est une inversion anglaise. Bon, merci, bonsoir.
C'est ça qu'on veut pas, Sophie. On veut pas avoir l'air francophone parce que c'est gênant puis c'est un petit peu honteux. Mais pas de faire
si regard,
de ça dans cette psychologie-là.
Ah, vas-y, continue.
Donc, le Longueuil Comic Fest que t'as dénoncé toi-même. Longueuil Comic Fest. Enfin, bref. Je t'en donne en rafale d'autres qui sont pas dans le domaine de l'humour. Il y en a un que j'aime beaucoup à Québec, le Unity Electro Fest.
Oui, ça je l'ai dénoncé il y a deux semaines.
Ah bon?
Tu sais que
l'adresse de contact du festival est le 1750 rue Périgord, Quebec City, Québec. Ça, c'est sur le site français, hein, francophone ou en français du festival.
Mais je t'interromps deux secondes, Nick, pour te dire que quand il y a eu l'article dans le journal La Presse pour nous annoncer que le Zoo Fest est en mort, il était dorénavant remplacé en partie par le Longueuil Comic Fest. Il y avait une entrevue avec un des humoristes ou un des organisateurs qui partait donc, qui initiait ce nouveau festival. Et il a dit, quand on m'a proposé de faire ça, c'était un no-brainer. No-brainer, ça veut dire... No-brainer, ça veut quand même dire que t'as pas de cerveau. Mais bon, c'est
non,
une façon
de... Hein? On n'a pas besoin de penser. No-brainer.
T'as même pas besoin d'y penser. Voyons,
ben
hein, non, nous, en anglais.
Ben, penser.
Oui. Ben non, no-brainer.
T'as un no-brainer. Pour rire. Just for laughs. Alors écoute, t'as le SatFest, hein, de la Société des arts technologiques. T'as le FermentFest. Alors ça, c'est des experts en fermentation qui vont marcher Jean Talon pour... le FermentFest, pas de face. L'Igloo Fest à Montréal, bien sûr. Ouais. T'as, écoute, le formidable Jib Fest. Ça, c'est le bon vieux festival de la giblotte de Sorel qui s'est mis à avoir honte de son nom français puis s'est dit, on va s'appeler le Jib Fest. Et tu sais
Ça, c'était l'année dernière. J'avais fait une chronique dans le Journal de Montréal sur le Jib Fest.
Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas nouveau. Non, ça fait déjà 2-3 ans là, qu'ils sont le Jib Fest. Et ils annoncent sur leur site que leur ambition, eux, est de se positionner comme l'événement majeur à l'échelle provinciale. Je pense qu'on n'est pas pire avec Jib Fest. On s'en va sur le provincial solide. Ensuite, tu as le Anata Fest, un festival de yoga. Tu as le Atmos Fest dans le bout de Québec. Pizza Fest avec son Pizza Fest Challenge. Tu as beaucoup de Music Fest, hein? Il y en a un à Rivière-du-Loup, mais tu as le Music Fest à Québec également. Tu as le Grand Music Fest de Québec, ça c'était l'année dernière. Il y a un Pizza Fest à Montréal, c'est ça, c'est pour poutine et pizza, mais c'est un festival de musique punk. Ah, j'ai pas trop compris, là, on écoute la musique punk en mangeant de la poutine, j'imagine, c'est le Pizza Fest. T'en as un que j'aime beaucoup, le Dull Boat River Fest.
Ah, ben ça, je l'avais dénoncé aussi.
Ouais, ouais, c'est des bateaux sur la rivière Mistassini. Alors, on comprend qu'avec un nom comme ça, les gens qui arrivent de Londres ou de Jakarta seront pas dépaysés.
Seront pas dépaysés, ben non, c'est
on
sûr.
On comprend
c'est
de quoi on parle. Je termine, il y en a encore deux, trois, là. Le Tribal Fest, le Barbecue Fest. Il y en a un intéressant ici, le Zec Festuber. Écoute, ça, je présume que ça passe la rampe là, pour être un nom francophone, mais c'est quand même assez drôle, le Festuber, je trouve. J'ai aucune idée de ce que c'est par ailleurs. Et enfin, si tu veux vraiment déprimer plus profondément, tu vas sur eventbrite.com et là, tu as une liste de festivals montréalais, apparemment très appréciés des Montréalais, qui sont à peu près exclusivement tous en anglais, avec des sites en anglais. Des fois, c'est écrit « French below », là, tu vas en bas, loin, 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 puis tu as une traduction Google Translate qui est comme un malaxeur chinois là, tu sais, que t'achètes puis tu comprends rien de ce qui est écrit. Et alors là-dedans, t'as le Kidzo Fest Montreal qui existe depuis 5 ans déjà. T'as le Sunset Vibes Carnival qui est au Beach Club de Pointe-Calumet. Je savais pas que ça existait ça non plus. Ça aussi, c'est tout présenté en anglais. Là, on est dans une autre section là. C'est plus les Anglos qui se foutent complètement du Québec. Mais pour le reste, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Franco qui ont très, très, très honte d'avoir peut-être l'air éventuellement d'avoir un résidu de culture francophone en eux et puis qui tiennent à ce que ça paraisse pas. C'est un peu curieux pour des festivals d'humour, par ailleurs, tu sais.
Ouais, mais écoute, tu veux...
Ça tient sur la langue.
Moi, toi, ça me donne envie de chanter la chanson de RBO, là. I want to pong. Ben là, je sais même pas si c'est l'air, là. I want to pong, hein. Ça veut pogner, ce monde-là, là. C'est un no-brainer.
C'est un no-brainer. Mais tu sais que là, on a juste fait le tour des festivals avec des noms anglais, mais cette volonté-là de faire disparaître soi, sa propre culture, se manifeste partout aujourd'hui au Québec, dans un paquet d'espaces là, de la vie publique et de la vie quotidienne.
Mais c'est super important qu'il y ait une parité homme-femme. Mais respecter le français, ça viendra après. Mais la parité, c'est parce que sinon, il y a le petit Émile là, qui va être fâché. C'est Émile, il est fâché fort s'il n'y a pas la parité homme-femme.
Je pense même que la parité vient avec l'anglais, parce que l'anglais, c'est moderne et puis c'est l'avenir. On le sait, au Wyoming et au Dakota, ils sont en avance sur nous, c'est évident.
Absolument. Ben, merci beaucoup, Nick Payne. Et puis, je reprendrai, vu qu'il y a le Jib Fest, le festival de la gibelotte. Ben, quand moi j'entends tous ces noms de festivals qui se terminent en fest, ça sonne pas mal comme de la gibelotte. Merci beaucoup, Nick Payne.
No brainer. Oui.
Ciao, bye bye.
Ciao, bye bye.
Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure.
Jean-François Barry, c'est le genre de chronique que j'adore. Je n'ai aucune idée de quoi tu veux me parler.
Je t'ai envoyé ce matin la bande-annonce de James Bond 26. Je ne sais pas si tu es une fan de James Bond.
J'adore James Bond. Est-ce qu'on l'a, la bande-annonce?
Oui, on va sûrement pouvoir en jouer un petit bout, mais est-ce que tu l'as légèrement visionné?
Ben non, parce que tu m'as dit que ça allait être une surprise puis qu'on allait s'en parler. Je ne savais pas qu'il fallait que je la regarde.
Mais on va en jouer un extrait pour les gens qui nous ont en vidéo. James Bond, donc 26, et on remplacerait dans cette nouvelle mouture Daniel Craig pour Henry Cavill et Margot Robbie. Margot Robbie qu'on a vu dans Barbie cet été, entre autres.
D'accord.
Et Monsieur Cavill, lui, on présente présentement la bande-annonce. C'est Superman, il y a bien des gens qui le savent. Et cette bande-annonce-là a été faite par KH Studio. Et écoute, je vous invite à regarder un extrait. On voit Monsieur Cavill, regardez-moi ça comme il est sexy.
OK, c'est le gars de 50 nuances de gris, de gray. Non? C'est pas lui?
J'ai pas vu ce film-là. J'ai vu Superman, moi.
Non, je sais que c'est... Non, mais le comédien. Ah oui, c'est pas le même comédien, me dit-on, parce que Maximil, il connaît ça, le cinéma. Bon. Donc, je comprends pas, là. Excuse-moi. La bande-annonce qu'on vient de voir, c'est une bande-annonce pour le prochain Superman.
Le prochain non? James Bond. Mais je te mettais en contexte qui étaient ces deux personnes-là. Mais le point, là, c'est que la bande-annonce, elle est fausse. Elle est faite avec l'intelligence artificielle. Il n'y a rien de ça qui est vrai. Il n'y a aucun comédien qui a participé à ça.
C'est, mais comment c'est, ils font?
Ils ont
moi,
pris
ça,
des visages, des mimiques.
Ça, puis la caramel, je comprends pas comment ils font pour mettre le caramel à l'intérieur une fois qu'il y a des petites bosses dedans.
À mon avis, ils virent les petites bosses à l'envers, ils mettent le caramel, puis ils patchent par-dessus. Mais ça, c'est un autre dossier.
Maudite affaire!
Mais écoute, ça a été, évidemment, pour les fans de James Bond, dans le temps de le dire, des millions de vues, parce que, tu sais, mettons que moi, là, je suis un fan, là, je te l'envoie, hey, as-tu vu ça, tatata, puis là, ça se propage. Et pourtant, dans le bas, c'est écrit, là, ils ont fait une mise en garde, cette vidéo est juste pour s'amuser, c'est un studio qui s'était mis à faire l'intelligence artificielle, mais même les acteurs, actrices, là, les gens, le téléphone a commencé à sonner en disant, waouh, c'est toi, la nouvelle Bond Girl, c'est toi le nouveau James Bond, puis là, ils ont été obligés de démentir.
Non, non. OK, moi, mais là, il y a la question des droits, parce que tu peux pas, mettons, prendre ma face, puis dire que je vais être dans le prochain, film sur, tu sais, que je vais jouer le rôle de Claudia Schiffer, parce qu'on a quand même une ressemblance, elle et moi, puis tout
ben,
ça.
Totalement.
Mais
j'avais plus Cindy Crawford en tête, mais c'est correct, vu qu'elle est plus foncée. Mais c'est tout ça que ça soulève. Et d'ailleurs, vous pouvez aller lire le papier de Maxime Demers dans le Journal de Montréal, qui explique toute cette nouvelle-là. C'est tout ça que ça soulève. Et c'est pour ça que les gens s'inquiètent de l'intelligence artificielle. Il y a plein de bons dans l'intelligence artificielle. On prend des entrevues, par exemple, on les traduit en texte, puis on sauve du temps, puis tout ça. Mais quand on commence à jouer avec le visage. Honnêtement, il y a plein de gens qui se sont fait prendre parce que c'est à s'y méprendre.
Mais oui.
Donc ça veut dire qu'on peut commencer. Je pense, là, de ce que j'ai vu de la bande-annonce, que demain matin, ils pourraient prendre ton émission que tu es en train de faire, vu que surtout, en plus, tu sais, on est plutôt statique.
Donne-leur pas des idées.
Et ils pourraient nous prendre et nous faire dire ce qu'ils veulent.
Non, donne-leur pas des idées.
Je pense pas qu'ils ont du temps à perdre avec nous, mais comprends ce que je veux dire, à quel point c'est inquiétant. Fait que là, l'industrie du cinéma capote présentement parce que eux autres, à un moment donné, ça veut dire qu'ils vont peut-être servir à rien. T'sais, d'un autre côté...
C'est longtemps qu'ils capotent, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il y a eu une grève... Il y a eu une grève à Hollywood, c'est que justement les gens disaient ben là, tu sais qu'est-ce que vous avez prévu si jamais on est remplacé par de l'intelligence artificielle puis tout ça, c'est quoi comment nos droits sont protégés?
Mais au-delà du cinéma là, le jour où dans une campagne politique on monte une vidéo là compromettante de quelqu'un ou quelque chose comme ça, truqué, comment on va faire pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Parce que c'est vraiment proche de la vérité, là, ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Puis là, une fois que ça se met à voyager sur les médias sociaux, là, ça se promène, ça se promène. Par le temps qu'on démente, il y a des gens qui vont y croire pour toujours. Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Non, non, je l'ai vu, moi, la vidéo. » Ils ont eu beau l'enlever puis dire qu'il n'était pas vraiment là puis que c'est une vidéo qui a été faite avec l'intelligence artificielle. Les gens ne changeront pas d'idée. Qu'est-ce qui va arriver un jour dans un procès qu'on va dire « Non, on a une preuve, une caméra de surveillance qui a capté, puis ça va être l'intelligence artificielle. » Tu sais. C'est tellement poussé et tellement proche de la vérité, ça donne froid dans le dos.
Absolument, puis c'est assez, en effet, inquiétant. Te souviens-tu la saison dernière, bon, il y avait Guy Nantel qui était chroniqueur chez nous, puis on parlait de c'est l'intelligence artificielle, mais sur une autre forme. Pas les images, mais les textes. On parlait de ChatGPT, c'était le début des discussions sur ChatGPT, puis il avait demandé à ChatGPT toutes sortes de questions. Et ce qui était inquiétant, c'était non pas nécessairement de la fausse information, mais ça, il y en avait, c'était à quel point ChatGPT était biaisé idéologiquement. Ah oui. Donc, à quel point il véhiculait, alors que c'est un logiciel, à quel point il véhiculait un certain nombre d'idéologies que quand on lui demandait, par exemple, de faire une blague sur Donald Trump, il trouvait plein de blagues à faire, mais quand on lui demandait de faire une blague sur Barack Obama, il disait, la réponse de ChatGPT, c'était ben là, c'est parce que, tu sais, il faudrait pas quand même rire du premier président noir, puis tout ça. Fait que,
donc,
bon,
il
bref,
était totalement
ce que je veux dire,
côté.
C'est que quand on commence à s'inquiéter sur l'intelligence artificielle, on n'a pas fini.
Non, c'est drôle parce que effectivement, ça fait pas longtemps ChatGPT, puis on en riait un peu là, quand c'est arrivé, surtout à cause du nom là, ChatGPT. On s'amusait avec ça au Québec, puis tout le monde a fait le test. Puis je me souviens l'été passé, moi aussi j'ai fait des entrevues là-dessus, puis ce que tous les experts me disaient, c'est attends, c'est un tsunami. Fait qu'imagine en un an, on est passé d'une machine auquel on peut poser des questions, le ChatGPT qui nous amusait à créer une bande-annonce de film sans... Tu sais, s'il m'avait dit, non, mais on, il est venu en studio, on a pris sa, son visage, puis là, après ça, on l'a fait bouger. Non, non, il est même pas allé en studio. On a pris des images de films, des images de lui sur des tapis rouges, des images de lui dans les magazines, et on l'a créé de toutes pièces.
Ouais.
Ça, c'est capoté, là. Ça veut dire que demain, si on veut, on peut mettre... on peut simuler une arrestation de moi ici, que je sors de la maison, les menottes au poing, puis entouré de policiers. Puis là, par le temps qu'on démonte, ça va avoir fait le tour. Ça fait que c'est vraiment, vraiment capoté.
Absolument. Et ben écoute, en effet, c'est absolument inquiétant. Et puis, il faudrait pas qu'un jour, tous ces gens qui ont quand même... Parce que moi, je veux bien, là, tu sais, ils font des fausses images puis tout ça, mais à un moment donné, des grands films, des grandes performances de comédiens, est-ce que vraiment une machine va être capable de faire la différence? Quoique, mon fils, il joue à des jeux vidéo, comme tous les ados de son âge, puis des fois, il joue dans sa chambre, puis des fois, il joue dans le salon. Et quand je passe dans le salon et qu'il est en train de jouer à un jeu vidéo sur la grande télé, des fois, je dis « Ah ouais, c'est beau les images. » Mais... Et puis là, mon fils me dit bah, « c'est des fausses images, là, c'est pas vraiment un comédien. » C'est juste...
ben oui.
Mais tu t'approches, t'as la pigmentation, t'as des petits poils de moustache, t'as des petits... Je dis « Attends, c'est pas vrai. » « Non, non, maman, c'est des fausses images, là, c'est un truc de... »
Mais ça, c'est tout un autre dossier. Parce que ceux qui jouent à tuer des méchants, il y a beaucoup de jeux comme ça, là, où on tire du gun ou de la, on donne des coups de hache ou peu importe. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était fait en pixels. Là, j'avais pas vraiment... Je savais que je tuais un... C'est Dunk Hunt, là, pour ceux qui se souviennent, c'était des canards qui volaient, on avait un gun en plastique. Là, pis... Mais là, maintenant, c'est tellement proche de la réalité, on a tellement l'impression de tuer quelqu'un. Ça aussi, mais là, ça ouvre la porte
à toutes sortes de choses.
Des jeunes de 12-13 ans qui jouent
mon fils,
à ça.
Là, il ne fait pas des jeux où il faut tuer des gens.
Non, mais il y en a.
Ben non, c'est une blague. C'est tous les enfants font ça.
Je sais pas, moi, mon gars, il joue à des jeux de sport. Fait que peut-être que le tien aussi aurait pu jouer à d'autres choses.
Oh, bon.
Mais je pense que j'ai déjà vu tuer un méchant ou deux.
Ouais, ben, c'est ça. Ça m'étonnerait. Merci beaucoup, Jean-François. Et puis, qui sait, peut-être demain, tu vas être remplacé. Ce sera pas toi. On va penser que c'est toi, puis finalement, c'est une fausse image de toi.
J'espère qu'il sera pas meilleur.
Impossible. T'es irremplaçable.
Salut, là.
Merci.
Sophie Durocher.
Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
Pierre-Olivier Zappa était en entrevue dans un précédent épisode avec Sophie Durocher. Il y était venu nous parler, en fait, de ce reportage qu'il a réalisé avec des centenaires ici au Québec. Mais en France, on vient d'ajouter une nouvelle classe d'âge, les super centenaires. Pourquoi je dis nouvelle? Ben, c'est parce qu'avant, oui, il y en avait, mais il y en avait pas tant que ça, là, tu sais, comme pas assez pour avoir une catégorie, pas assez pour avoir une classe à leur nom. Mais là, les super centenaires, donc ceux qui dépassent les 105 ans, sont de plus en plus nombreux. En France, ils sont 31 000. Ça, c'est 30 fois plus qu'en 1970. Bon, c'est sûr, vous allez me dire, c'est normal parce que la médecine, ça a évolué, mais quand même, c'est assez notable. Et je m'excuse, messieurs, mais en 2022, on a recensé 39 décès de personnes super centenaires et 38 étaient des femmes. Donc, vraiment, c'est les femmes qui ont cette chance de pouvoir vivre de plus en plus longtemps. Puis si je vais un petit peu plus en détail là, sur les profils des super centenaires, donc des femmes qui ont fait des métiers assez dur et en plein air. Tu sais, comme tout ce qui est agriculture, par exemple, ça revient souvent avec une alimentation qui est basée sur des produits sains, évidemment. Puis d'ailleurs, dans le livre des records Guinness, c'est la Française Jeanne Calment qui détient le record. Elle était décédée à 122 ans en 1997. C'est la personne ayant vécu le plus longtemps.
Je me rappelle quand elle est morte. Oui, on couvrait ça. Ben, en fait, je me rappelle pas juste quand elle est morte, mais je me rappelle... mettons entre 100 et 122 ans, à quel point il y avait quasiment chaque année, il y avait un reportage. Ah, Jeanne Calment, la femme la plus vieille du monde. Ah, Jeanne Calment est rendue à 102, puis elle est rendue à 103. Puis en tout cas, écoute, on nous a tartiné ça. Ben oui, elle s'éternisait, c'est le cas de le dire.
Non, mais tu sais, 122.
Tant mieux, mais oui, 122. Et moi, ça ne me tenterait pas. À un moment donné, ça suffit.
Mais on dirait que j'avais cette question-là. T'sais, est-ce que ça vous tente de fêter un centième, puis après ça, d'aller au 102e?
Ben, ça dépend.
105e.
C'est que, tu sais, regarde, tout à l'heure, je vais recevoir Guylaine Tremblay qui joue
Jeannette
à l'occasion d'une pièce de théâtre qui va être écrite et qui va être présentée en 2025 pour l'anniversaire des 100 ans de Jeannette Bertrand. Mais ben, Jeannette Bertrand, elle est vive, elle est extraordinaire. C'est sûr qu'elle a des bobos et tout, mais elle a toute sa tête, elle a toute son énergie, elle a tout son enthousiasme. Donc, vivre jusqu'à 100 ans pour être une Jeannette, oui, mais pour être une... Bon, en tout cas, bref, on a plein d'exemples là, de gens qui sont plus diminués. Ouais. Alors, à un moment donné, je pense que...
C'est ça, ça dépend de la situation, t'as raison. Puis tu sais, peut-être aussi, c'est cette passion-là du travail. Tu sais, Jeannette, elle a encore mille et un projets. Puis tu sais, est-ce que c'est ça qui la garde aussi allumée?
Ça,
aussi,
le beurre.
Le beurre. T'as raison.
Parce que tu te rappelles, tu sais à quoi je fais référence, parce que quand P.O. Zappa est venu ici pour nous présenter son excellent reportage sur les centenaires, il y avait une entrevue à un moment donné avec une dame, puis tu la voyais dans sa cuisine, elle te prenait la mode de beurre, elle prenait ça, puis elle mettait du gras dans sa casserole. Tu sais, elle a pas vécu jusqu'à 100 ans en mangeant des petites graines de chia. C'est très bon, le chia, évidemment. On salue ici Isabelle Huot. Mais le beurre, moi, j'adorais cette histoire-là.
Du beurre, c'est bien beurre. Meilleur.
Ouais, quand je te dis passe-moi le beurre.
Ah, oh, je la connais pas celle-là.
Ben, t'es trop jeune.
C'est quoi?
Tu vois, c'est là qu'on voit la différence de génération. Quand je te dis passe-moi le beurre, passe-moi pas autre chose. Oh. C'était dans le temps, il y avait tout le débat beurre-margarine. Alors, la publicité en faveur du beurre, c'est quand je te dis passe-moi le beurre, passe-moi pas autre chose.
Je comprends. Là.
C'était aussi la publicité pour le film Le Dernier Tango à Paris. Ben non, c'est une blague. Maxémile la comprend.
Bon, je veux juste terminer rapidement sur cette petite nouvelle sur Taylor Swift, parce que grosse surprise pour la marque de vêtements Untitled ici à Montréal. La marque a réalisé que Taylor Swift porte un de leurs hauts dans son plus récent vidéoclip Fortnite, un haut noir de style victorien.
C'est magnifique d'ailleurs.
Ben je sais, mais la marque montréalaise.
Ça tirait bien toi.
Ah, j'aimerais
regarde
ça.
Regarde la chemise que tu portes aujourd'hui, oui, ça tirait bien.
Le petit volant. Dentelle, il y a quelque chose. Mais la marque n'était même pas au courant là.
Cochon classique.
J'adore.
Non, tu trouves pas?
Ben,
tu sais, c'est parce que c'est classique avec. Est-ce que je t'ai choquée parce que c'était un petit peu de rouge au jour?
Non, ça m'a fait rire.
Oui.
Que tu me sortes
parce
ça.
Que tu sais que c'est Taylor Swift, c'est comme tu sais avec le petit volant, ça pourrait avoir l'air classique, mais en même temps avec un peu de mordant.
On ajoute du. Mais quand même, c'est le fun de voir que du québécois
absolument.
A été porté par la vedette internationale.
Sophie Durocher.
Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
Alors, Maxime Martin nous surprend parce que sur l'affiche de son prochain spectacle qu'on va pouvoir voir en février 2025, il pose avec sa chienne, elle s'appelle Aura, et le titre de son spectacle, c'est « Bon chien ». Maxime, bonjour.
Comment ça va?
Ben moi, ça va bien, Maxime, parce que chaque fois que je te parle, tu me surprends tout le temps. T'es jamais là où on t'attend. Qu'est-ce que c'est ça, bon chien?
Ben, écoute, je vais quand même confesser que c'est pas moi qui a trouvé le titre, mais... tu vois, cette photo-là, je me tente pas de la regarder, par exemple. Mais, en fait, en brainstormant, tu sais, moi, c'est Maude, mon bras droit, en fait, qui m'a appris un moment donné, puis elle m'a dit « bon chien », puis je suis parti à rire. Je suis pas très jeu de mots dans la vie, ça me confronte rapidement, mais ça restait, puis là, tu sais, je le testais avec du monde autour, puis je trouvais que ça disait tout ce que ça veut dire, que oui, on connaît les changements de ma vie, mais que Maxime Martin, tu sais, une fois qu'il est sur scène, est encore capable de s'exprimer, puis de grogner un peu, puis de mordre aux bonnes places, tu sais.
Ouais, mais des fois, moi, je trouve en général que des fois, les humoristes sont, ils jappent pas beaucoup. En tout cas, oui, jappe et il mord pas. Toi, t'es plus du genre je jappe et je mords ou je jappe et j'ai plus de mordant ou je. Tu te situes où là-dedans? Dans le sens, est-ce que ça va faire mal ton spectacle en fait, février?
Ben, je veux dire, c'est toujours. Ça va grincer les oreilles comme d'habitude, comme Maxime Martin. De toute façon, tu t'avais vu l'avant-dernier show aussi.
Ben oui.
Maxime Martin va toujours rester du Maxime Martin, mais.
J'aime ça quand tu parles de toi à la troisième personne.
Ben, écoute, qui ne parle pas de 60? Dans le showbiz, t'as pas le choix.
Ben, Napoléon sort de ce cas.
Exact. Mais donc, tu sais, je pense que, tu sais, comme je regarde les shows qui sont sortis récemment, il y a des sacrés bons shows. Je veux dire, je suis allé voir Laurent Paquin, tu vois, je trouvais que ça brassait quand même bien dans la cage, j'ai des bons moments.
Ouais.
Et tu sais, c'est pas dans le petit, je suis allé voir Guillaume Pinot. En fait, je m'en vais voir Guillaume Pinot, puis c'est pas dans son ADN, tu sais, je pense. faut pas non plus se forcer pour japper. On les connaît les jappés au Québec, là, sur scène. Fait que, puis on sort d'une pandémie, je pense que les gens sont aussi un peu à court d'une espèce de bonne humeur. Puis on peut se faire du bien avant tout, ce qui est quand même à la base le rôle de l'humour. Mais moi, en fait, ce qui est surtout la force de ce show-là, c'est que oui, t'sais, en fait, c'est écrit dans la description, c'est quoi, tu sais, puis dans la cinquantaine, t'essaies de simplifier ta vie dans un monde qui est de plus en plus complexe. C'est vraiment la meilleure façon que je peux résumer le show. Fait que, tu sais, dans ma démarche, c'est sûr que je croise un peu l'imbécilité humaine, tu sais, qui nous entoure et qui semble, en fait, qui semble se multiplier rapidement. Mais oui, exact.
Elle est sans fin.
Mais aussi, et je suis aussi dans une, tu sais, moi, je l'aime, ma crise à cinquantaine, elle est fun, elle est saine. Ouais. Il y a des aspects de ma vie que j'ai commencé à adopter que non, je vous stoulerai pas parce que je garde ça pour le show, mais il y a des aspects, quand tu penses que les gens te connaissent et quand tu penses que toi-même te connaître, c'est drôle de découvrir des avenues que tu as envie d'explorer ou ce que tu n'aurais jamais pensé faire ça il y a 20, 30 ans. Enfin, c'est un amalgame de bien les choses, comme ça a toujours été. Mais ce que j'aime jusqu'à date, c'est qu'on a quand même, on a commencé le rodage depuis décembre. Puis même mes amis font, ah, ouais! On savait pas ça. C'est nouveau.
T'apprends des choses. Mais donc, ça veut dire, c'est énorme ce que tu nous dis parce que, bon, on le sait évidemment, les humoristes que vous faites du rodage pour tester, etc. Puis pas juste pour tester, mais aussi pour aller rencontrer les gens un petit peu partout au Québec. Donc, t'es en train de me dire que pour un spectacle qui va commencer officiellement en février 2025, t'as commencé à le roder en décembre 2023. Ouais. Hey, c'est énorme quand même.
Ben, c'est un luxe que j'ai pas souvent eu dans la vie. Fait que je suis content de l'avoir parce que souvent, tu sais, ça se résumait à peut-être à, je te parle de, à peut-être une quinzaine, vingtaine de shows, mais c'est que de un, tu sais, quand t'es entre deux shows, ben, évidemment, tu fais des petites salles, tu te promènes en région, tu participes à des festivals, whatever, tu sais, on trouve toujours une façon de rester sur scène. Et, mais là, je retournais à certains endroits avec l'ancien show, mais moi, j'étais tanné de le faire. Fait que, une fois que tu manques de sincérité sur scène.
Ouais.
L'humour robotique, c'est pas dans mon ADN, fait que, et puis ça me tentait pas non plus de faire un amalgame de je vais essayer, ça a jamais été mon style de dire je vais essayer un nouveau 15 minutes dans mon show. Non, c'était comme, et la première fois je l'ai fait au Rituel, qui est une petite place de rodage à Gatineau, je suis arrivé feuille en main, parce que je maîtrisais clairement pas.
Et les gens ont réagi comment? Les gens ont réagi comment quand ils comprenaient?
Ben oui, en fait, c'est drôle parce que Mario Tessier avait fait la même affaire deux mois avant, fait que j'avais appelé Mario pour lui dire, puis il dit, man, c'est génial, puis le Rituel est quand même reconnu comme un endroit quand même assez généreux dans ses rires, fait que c'était vraiment une belle place pour me casser la glace, puis, et là, tout était nouveau, fait que, et là, depuis ce temps-là, puis c'est surtout que, je peux pas dire que j'ai un moment de panique, mais ça m'a pris du temps avant de trouver l'inspiration de ce show-là, c'est le sixième, j'ai des chums, qui ont trouvé une façon d'écrire plus rapidement. Tu sais, je pense justement, je parlais de Laurent Paquin tantôt. Je regardais les shows qui sortaient, je faisais, OK, tu sais, je sais pas, tu sais, je voulais pas écrire un show pour écrire un show. Je voulais trouver une voie différente parce que je pense que t'as une mission en tant qu'artiste de toujours surprendre ton public puis que ça soit pas du réchauffé.
Ouais.
De pas exploiter une certaine formule tout en restant soi-même aussi, tu sais. Les gens veulent pas que tu sois dénaturé. Puis, ça m'a pris du temps, mais à un moment donné, c'est drôle à dire, c'est pendant un marathon en Écosse l'année passée. Je sais, ça fait super...
Je
suis allé m'inspirer pendant un marathon en Écosse.
Non, mais aussi, en même temps, tu montres à tout le monde que t'es en forme, hein, Maxime Martin. Je courais. Pof, 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 exact. Je faisais mon petit marathon. Pof! L'idée d'un spectacle m'est venue. J'adore ça.
Ouais. En fait, c'est quelques jours avant, parce qu'on m'a dit, je sais pas si t'as juste été en Écosse, mais c'est
Maxime,
un pays inspirant pas à peu près.
Évidemment. Ah oui, j'adore ça. Oui, c'est ça. Magnifique l'Écosse. Mais je veux quand même qu'on prenne le temps de parler de ta chienne, Aura. Moi, je ne savais pas que c'était une chienne d'accompagnement et je ne savais pas que c'est pour t'aider avec ton TDAH. La comprends-tu, la blague? T'aider avec ta... Bon, bref. Et ben, je suis surprise du nombre d'humoristes qui sont TDAH. Comme tu sais, l'été dernier, j'ai passé quand même un petit moment dans la jungle à faire l'émission que ta fille avait déjà faite, la Sortez-moi d'ici.
Exactement.
Avec Phil Laprise, il en parle ouvertement, et Rosalie Vaillancourt aussi, elle en parle dans son spectacle de TDAH. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien, c'est-à-dire que le fait d'aller sur scène et de parler de ton TDAH, que ça t'aide et que ça aide aussi peut-être à démystifier cette condition-là?
Ben, en fait, c'est drôle parce que, tu sais, c'est tellement le mot à la mode, tu sais, on a l'impression que si on écoute les gens autour de nous, qu'il y a 95% de la population est TDAH.
À peu près, oui.
J'en gague, il y a plus de monde qui sont TDAH aujourd'hui que de monde qui ont une gonorrhée des années 90, ça, tu fait que, mais.
Ce qui n'est pas peu dire.
Ce qui n'est pas peu dire, tu sais, c'était des années assez wild, mais.
Qui a pris sa petite comprimée de tétracycline?
Mais, que des belles, que de bons souvenirs. Mais, toi, ça chauffe-tu aussi? OK, moi aussi, OK, je suis pas tout seul, OK. Mais, joke à part, c'est, non seulement c'était diagnostiqué, mais je vois aussi que
trop d'informations.
C'est une condition oui. qui s'empire de mon côté, puis moi, j'y vais toujours avec des voies naturelles parce que, à cause de mon passé de toxicomane, ça me fait peur, la médication, surtout qu'on sait que pour le TDAH, c'est intense. Je sais pas s'il y a un lien entre l'humour et tout, mais, puis moi, j'en parle brièvement dans le show parce que justement, Phil en parle, Rosalie en parle, il y a bien du monde qui en ont parlé. Moi, je l'adresse parce que je monte quand même sur scène avec un chien parce qu'Aura m'accompagne, tu sais. Mais je parle pas de la condition tant que ça, mais je peux te dire que moi-même, en tant que personne qui en souffre, je pense que j'avais sous-estimé l'impact que ça peut avoir sur ton quotidien. Puis,
oui.
Si on peut les démystifier. Ah oui. Mais sur ton entourage, surtout.
D'accord. Écoute, l'entrevue se termine. Sur un point intéressant, fait que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se refasse une entrevue pour parler plus précisément du TDAH, si tu le permets, parce que je trouve que c'est un sujet important. Et l'aspect, justement, de l'impact sur les gens qui vous entourent, c'est important. Alors, c'est une promesse qu'on se fait, Maxime, au cours des prochains mois. On se fera une entrevue TDAH. En fait, j'aimerais ça, à un moment donné, faire une émission au complet avec des gens qui ont le TDAH et qui pourraient échanger entre eux. On se ferait une table ronde. Je pense que ça serait extrêmement intéressant parce que c'est une réalité qu'on connaît encore trop peu. Merci beaucoup, Maxime, puis bonne chance avec Bon Chien en février 2025. Merci.
Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
Alors, on en parlait tout à l'heure. Ah ben, de toute façon, vous le savez maintenant. En 2025, Jeannette Bertrand va avoir 100 ans. Et pour l'occasion, il y aura une pièce de théâtre qui lui sera consacrée au théâtre du CEPS. La pièce va s'intituler Jeannette. Et qui va interpréter Jeannette? Ben, nul autre que Guylaine Tremblay, qui est avec moi maintenant. Bonjour, Guylaine.
Bonjour, Sophie.
Quel honneur. Je trouve que c'est un honneur pour toi de faire Jeannette, puis en même temps, c'est un honneur pour Jeannette que ce soit toi qui l'interprète. Ça marche dans les deux sens, cette affaire-là.
Écoute-moi, en tout cas, je trouve que pour moi, c'est un immense privilège, un immense honneur de jouer Jeannette. Et je suis d'autant plus touchée qu'elle m'a choisie.
C'est fou.
En accord avec les gars chez Ducep, évidemment, et l'autrice Rebecca Deras. Mais j'en reviens pas, je me pince encore, Sophie.
Écoute, je vais citer quelques petites choses que Jeannette a dit à ton sujet. Attends, je trouve ça ici. Guylaine, je trouve que c'est la meilleure comédienne au monde. Pour moi, une comédienne ne joue pas un rôle, c'est elle qui est le personnage. Je suis sûre qu'elle va être moi. Quand on te lit ce genre de commentaires-là, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça va gratouiller à l'intérieur, Guylaine?
Ben, ça me fait plaisir de savoir qu'elle me fait autant confiance. Et ça me met une petite pression, je t'avoue, aussi. Mais ça, c'est notre métier.
Ouais.
La joie et la pression, ça va ensemble.
Mais c'est particulier quand même, parce que moi, de mémoire de chroniqueuse culturelle, c'est la première fois que j'entends parler d'une pièce de théâtre qui est écrite de son vivant sur quelqu'un pour, en quelque sorte, à la fois lui rendre hommage et raconter sa vie. Donc, toi, c'est particulier parce qu'habituellement, quand tu joues, mettons, dans du Tremblay ou dans d'autres pièces de théâtre, ben, ce sont soit des personnages inventés ou des personnages qui ont vécu mais qui sont plus là. Donc, est-ce que toi aussi, c'est la première fois que tu joues le rôle de quelqu'un qui non seulement est vivant, mais t'as choisi pour jouer ce rôle-là?
Ah oh, oui, absolument, absolument. Mais je trouvais ça tellement important de le faire. Tu sais, quand Jean-Simon Traversier, qui va faire la mise en scène, puis un des co-directeurs de Ducep m'a contacté pour ça, il m'a dit, écoute, nous, chez Ducep, on considère que c'est essentiel de rendre hommage à nos héros puis nos héroïnes. Ceux et celles qui ont fait le Québec moderne. Il y a comme un pan de notre histoire, Sophie, qu'on ne connaît pas.
Je suis d'accord avec toi.
Et c'est une erreur déplorable parce qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir qui on est. Hein, ça, on le sait. Et il y a plein de jeunes de jeunes garçons et de jeunes femmes qui ne savent pas qui est Jeannette Bertrand, alors qu'elle a ouvert tous les chemins, ou à peu près, pour nous.
Mais non seulement ça, mais aussi, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de libération sexuelle, on parle d'identité de genre, puis tout ça, mais toutes ces questions-là, c'est des questions sur lesquelles Jeannette Bertrand a écrit à l'époque quand elle avait son courrier du cœur, où elle a réussi à libérer les esprits, l'acceptation de l'homosexualité dans les familles. Mais plein de sujets qu'on prend pour acquis aujourd'hui. Elle, elle a été une défricheuse, puis c'est important de lui rendre hommage pour ça aussi, là.
Ben tout à fait, parce que il y avait pas de sujet tabou pour Jeannette, il y en a pas encore, mais il faut se rapporter à il y a 40 ans, ne serait-ce que dans les émissions Parler pour parler, elle a parlé avec des transgenres, on savait même pas ce que c'était.
On appelait des transsexuels à l'époque, ouais.
Exactement, exactement. Elle a parlé de violence conjugale, elle a parlé de femmes qui tombent en amour avec des prêtres. Moi-même, j'ai eu l'immense honneur de jouer dans Un amour avec un grand A, où elle parlait de lesbianisme. Puis je voyais déjà toute son ouverture parce qu'elle disait « Je veux qu'on parle d'amour. Je veux que les gens comprennent que c'est une histoire d'amour entre deux femmes. » Et ça, ça a l'air banal aujourd'hui.
C'est ça.
Mais dans le temps, c'était tellement, tellement, tellement révolutionnaire de voir deux femmes qui s'aiment à l'écran dans une scène de lit.
Oui.
En plus.
En plus. C'était qui? T'es avec qui? Qui tu frenchais?
Ma belle Mireille Desglin.
Oh mon Dieu! Ah ben, ça devait pas être difficile à frencher, ça, là! Tous les hommes du Québec devaient être jaloux de toi d'avoir frenché Mireille Desglin. Eh, frenchais-tu bien?
Ah, et c'était formidable!
C'était formidable. C'est pas de frencheuse, bon.
Mais c'était formidable de complicité en même temps. Oui. Parce que comme on était toutes les deux hétérosexuelles,
ben oui,
je pense qu'on avait l'abandon de le faire, tu comprends?
C'est très bon.
Il n'y avait rien d'ambigu là-dedans. Mais ce qui m'avait surtout touchée dans la démarche de Jeannette, c'est qu'elle dit je veux qu'on comprenne que c'est le même amour entre des lesbiennes ou entre un couple d'hétérosexuels, c'est la même chose.
Ouais, mais c'est important aussi que tu reviennes sur ces fameux avec un grand A, parce que mon Dieu que ça nous a impressionné. Puis c'était à l'époque où tout le monde regardait les mêmes émissions. Tu sais, c'était une télé qui était vraiment rassemblée. Ben toi, t'as connu ça de toute façon aussi avec La Petite Vie, évidemment. Mais c'était le sujet de conversation le lendemain devant la machine à café dans les cours d'école, parce tout le monde avait regardé la même émission. Donc, on peut vraiment dire que le Québec s'en trouvait changé petite étape par petite étape grâce à Jeannette. Donc, que tu l'incarnes au théâtre, c'est absolument immense. Comment tu te prépares? Parce que, bon, évidemment, tout ça est au balbutiement pour l'instant. Là, ça vient d'être annoncé. Oui. Mais donc, comment tu te prépares? Est-ce que tu lis les livres de Jeannette? Est-ce que tu regardes des vieilles émissions? Comment tu te prépares psychologiquement à l'incarner?
Ben là, tu vois, je vais relire son autobiographie, c'est évident, parce que puis je vais essayer de remonter dans mes propres souvenirs, parce que moi, j'ai 63 ans, Sophie, donc Jeannette, elle fait partie de ma vie depuis toujours. Je me souviens, ma mère m'avait procuré un petit livre de Jeannette où elle était photographiée avec ses deux filles, Isabelle et Dominique. C'était un livre sur les menstruations, et on ne prononçait pas le nom. Le mot à ce moment-là. On disait, elle a ses règles,
dérangée.
Donc déjà, j'avais 8 ou 9 ans, puis ma mère m'avait acheté ça, où elle disait les mots menstruation, vulve, vagin. Écoute, c'était nouveau pour nous. Nommer les choses. Toute sa vie, Jeannette a eu besoin de nommer les choses clairement. Donc, puis après, il y a eu Quelle famille? Où tout à coup, on voyait une famille normale, où tout à coup, cette femme-là, d'une quarantaine d'années, voulait retourner sur le marché du travail. Ça faisait toute une histoire avec son mari. Maintenant, les jeunes vont faire, ben voyons, c'est ridicule, toutes les femmes travaillent. Pas avant.
Non, c'est ça. C'est important. C'est important d'avoir le recul et aussi de vraiment de rendre hommage. Puis écoute, une centenaire. On veut-tu tous... On veut-tu tous avoir l'air de ça quand on aura 100 ans?
On peut être plus allumé que Jeannette Bertrand? C'est impossible. J'ai fait les entrevues avec elle hier conjointement pour la sortie du CEP. Je pouvais être juste admirative devant cette espèce d'esprit-là allumé. Elle m'a dit, j'ai des projets jusqu'à 102 ans.
Bon, ben ça tombe bien. Au moins 102 ans. Merci beaucoup, Guylaine. C'est toujours un plaisir de te parler. Aussi, donc, je rappelle que tu vas être l'interprète de Jeannette dans la pièce Jeannette, tout est dans tout. Merci beaucoup, puis bonne incarnation de celle qui a déniaisé le Québec.
Ben, je vais le faire avec tout mon cœur, en tout cas.
Merci. Ben, on compte sur toi. Merci beaucoup, Guylaine.
Merci, Sophie. Merci.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Mettez Normand Lester et Donald Trump dans la même phrase et je sens que vous avez envie de nous écouter. Bonjour. Bonjour, Normand.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que tu as de nouveau à nous dire sur notre bon vieil ami Donald?
Écoutez, j'attends incessamment, là, ça pourrait tomber dans les prochaines minutes ou probablement au plus tard demain matin, un jugement du juge Merchan, là, celui où il comparaît actuellement à New York, là, pour, hey, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un ex-président fait face à des accusations criminelles. Alors là, les avocats de la poursuite demandent au juge Merchan de prendre des sanctions contre Trump parce que Trump a transgressé une ordonnance du juge qui lui interdisait de passer des commentaires négatifs ou de s'en prendre verbalement au jury, aux témoins, au personnel de la cour. Et puis, Trump l'a fait au moins 11 fois là, depuis le début des vidéos.
11 fois quand même!
Ouais. Hein? En principe, dans chacun des cas, il est passible de 1 000 $ américains d'amende, ce qui est pour lui rien, c'est des, comme on dit, c'est des peanuts.
Ouais, de l'argent de poche.
Il pourrait faire face chaque fois à une peine de 30 jours de prison. Mais personne ne s'attend à ce qu'un juge ose envoyer Donald Trump en prison. Parce que pensez-y, n'importe quel autre citoyen ordinaire des États-Unis ferait face à toutes les accusations, puis des accusations criminelles et certaines très graves dont il fait face actuellement, ben il serait en prison en attendant son procès. Mais comme lui, c'est un ancien président et que ça s'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis, alors on prend son temps. Regarde, ça a pris 2 ans avant qu'on porte des accusations contre lui. Puis il fait face, comme tu sais, à des dizaines d'accusations criminelles qui sont passibles à des peines de prison. Mais ça a pris 2 ans avant, parce que ça aurait pu se faire, notamment toutes les démarches qu'il a fait pour essayer criminellement, illégalement, de renverser le résultat des élections, des dernières élections présidentielles, là, si la justice avait fonctionné rapidement aux États-Unis, en quelques mois, les poursuites auraient été déposées contre lui et on serait probablement, on aurait tout ça derrière nous. Peut-être que Trump serait en prison, mais peut-être aussi qu'il y aurait une guerre civile qui aurait commencé aux États-Unis. Parce que, hein, il le dit lui-même, si jamais vous essayez de me condamner à la prison, je vais faire appel à mes partisans pour qu'ils viennent.
C'est un chantage. C'est un chantage démocratique des pires qui fait appel aux plus bas instincts de l'être humain. Autrement dit, si la loi s'applique, je vais avoir recours à la violence. Et évidemment, personne n'a envie qu'il y ait un soulèvement populaire, personne n'a envie que ce soit la guerre civile aux États-Unis. Donc, il tient les États-Unis et le système juridique américain par les partis privés.
Oui, mais en plus de ça, et dès demain matin, là, la Cour suprême des États-Unis va entendre les avocats de Trump qui disent que on ne peut pas le poursuivre parce qu'il était président des États-Unis et que les présidents américains jouissent de l'immunité.
Ben hey, voyons donc!
C'est absurde tout ça, mais la Cour suprême va devoir se présenter, et ça s'est jamais arrivé dans le passé. Donc, on va jouer, est-ce que, effectivement, le cours... Parce que, comme je sais pas si tu te rappelles, il y a à peu près un mois, dans une cause où ils avaient déjà argumenté ça devant un tribunal inférieur. Son avocat avait dit, oui, en tant que président, il peut décider de faire assassiner quelqu'un et il jouit de l'immunité. Hein? Évidemment, il y a eu une décision qui a dit que c'était pas vrai, mais là, ses avocats contestent ça en Cour suprême. Hein? C'est sa technique pour essayer d'étendre, de pousser vers l'avant le plus possible toutes ces causes, comme tu sais. Il n'y a jamais une cause où il y a un jugement qui est décidé contre lui, où Trump ne va pas en appel parce qu'il espère aller jusqu'en Cour suprême, où il pense qu'il a le soutien de la majorité des juges conservateurs, mais de toute façon, il aimerait que toutes ces causes-là soient portées après l'élection présidentielle de l'automne, parce que en principe, quand il va être président, il va avoir l'autorité pour se pardonner lui-même.
Ben oui. C'est absurde. Mais Normand, il nous reste une minute. Je veux te dire, si on m'avait dit il y a 5 ans, donc en 2019, si j'avais été, si t'avais été chroniqueur et qu'on était ensemble dans une émission de radio et que tu m'avais dit, dans 5 ans aux États-Unis, il y a ça qui va arriver. Il va y avoir ce qu'on a vu le 6 janvier. Donald Trump va être en procès et tout ça, puis il va faire toutes ces déclarations-là. Je t'aurais dit, ben voyons, Normand, là, donne-moi le nom de ton pusher, là. Je sais pas, t'as dû prendre du cannabis, puis t'es mélangé entre un pinot noir puis du cannabis, là, mon Normand. Et là, c'est ça qu'on vit. Moi, c'est capoté.
Moi aussi. Écoute, lors des élections, les dernières élections, les élections présidentielles de 2016, moi, je pensais jamais qu'un individu odieux, un mégalomane, sociopathe comme lui, soit élu président des États-Unis. Je pensais pas que ça pouvait arriver, hein, puis j'ai fait des paris là-dessus, puis j'ai perdu.
Puis t'as perdu. Bon, ben alors espérons qu'on va arrêter de te faire perdre tes paris. Donc, n'en prends plus, mais continue à parier sur Cube. Merci beaucoup, Normand Hester. Toujours un plaisir de te parler. Je rappelle que t'es blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Je voudrais remercier Marianne Bessette à la recherche, Maxime Sawyer qui est là en régie, toujours fidèle au poste, toujours en train de ricaner avec mes petites références au cinéma. Et à la mise en onde, c'était Jean-Philippe Leroux. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain. Cube.